support, 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 brr, yeah.
Support, don't punish, support, don't punish, support, don't punish.
Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, une émission qui va parler de la campagne internationale Support, Don't Punish, soutenir, pas punir.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le petit monde de la réduction des risques. On est le 26 juin et depuis 1987, c'est une journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. En 2013, un groupement international d'associations a lancé le mouvement du Support, Don't Punish, en réponse aux politiques nationales et internationales qui criminalisent l'usage de drogue. Et c'est le 26 juin que ça tombe. Les conséquences sont désastreuses partout où la pénalisation de l'usage de drogue est appliquée, d'un point de vue social, sanitaire et sécuritaire.
De choix politiques et collectifs qui devraient reposer sur une approche sanitaire et non sécuritaire de l'usage des drogues. Avec nous dans les studios, Anthony de l'association Corps et Âme, Yann de Intermed, Jérémy, pharmacien, et Maël de l'association AIDS. Bonjour.
Et bonjour.
Salut, salut.
Ce qu'on peut faire peut-être, c'est commencer simplement par un petit tour de présentation.
Moi, c'est Maël. Je suis accompagnateur communautaire au Carud AIDS, qui se situe à Saint-Cyprien. C'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers et usagères de drogue. Nous, nos missions principales, ça va être de distribuer du matériel, accompagner les personnes qui consomment, les accueillir en fait, et créer du lien avec elles, et les accompagner, les orienter s'il y a des demandes. Ce qui nous amène aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, c'est Support Don't Punish.
Support Don't Punish, qui était ça ? Support Don't Punish, c'est un mouvement international qui a pour mission aider et soutenir les gens qui utilisent la drogue. Il y a aussi un mouvement qui encourage le gouvernement pour arrêter de servir répression et la loi punitive contre les gens qui utilisent la drogue. Mais qui fait ce mouvement-là important? Support Don't Punish, il met l'importance sur la santé, la liberté et le respect pour les droits humains.
Bonjour, moi je suis Jérémy, je suis pharmacien, je suis pharmacien d'officine, mais je suis aussi pharmacien qui intervient sur le CARUD Intermed de l'association régionale Clément Cizor. Sur ce CARUD, j'interviens sur un programme de médicaments dit à basse œil pour permettre à des gens qui n'auraient pas accès à ces médicaments de substitution aux opiacés de pouvoir accéder à ce traitement quand ils ne peuvent pas avoir justement accès à cette structure un peu plus compliqué d'accès pour eux justement par rapport à une précarité ou des absences de papier, des situations un peu plus particulières. J'interviens également sur le laboratoire d'analyse de drogue à visée de réduction des risques. Nous utilisons la chromatographie sur couche mince, ce qui nous permet finalement de pouvoir analyser des substances pour des usagers, ce qui est légal, et on le fait de manière gratuite et anonyme. Depuis la loi de modernisation du système de santé 2016, ça a été rendu donc légal et reconnu comme outil de réduction des risques.
Quand tu parles de laboratoire, ça va être des laboratoires portatifs?
Il va y avoir effectivement plusieurs types de structures. Maël, qui s'est présenté juste avant moi, lui utilise une deuxième technique qu'on appelle la spectroscopie infrarouge. On va, sur ces deux techniques, avoir la possibilité de faire du mobile avec une facilité de mobilité pour l'infrarouge, mais on peut également le faire avec de la CCM, mais ce qui nécessitera finalement une hotte mobile aspirante parce qu'on va manipuler des solvants sur la CCM.
La réduction des risques, c'est pas de l'incitation à consommer. Le but, c'est que, voilà, en fait, on sait que les consommations existent. L'idée, c'est de pas fermer les yeux sur ces consommations et de pouvoir justement les accompagner de manière à réduire les risques et que si toutefois consommation doit y avoir, que ce soit des consommations avec une qualité du produit et pas des produits de coupe. Ces dernières années, en fait, les personnes qui viennent sur nos stands, ils sont curieux, ils sont intéressés justement par la réduction des risques et ils s'intéressent aussi énormément à la qualité de leurs produits de manière à savoir qu'est-ce qu'ils consomment.
Bonjour, moi c'est Anthony, je suis président de l'association Corps et Âme. Du coup, nous, on intervient plus dans un cadre festif et majoritairement en free party. On est là pour mettre en place des actions de réduction des risques auprès des usagers et usagères de produits psychotropes. Donc on met en place des stands, des espaces de réassurance, de communication, des chills, pour permettre que les personnes puissent s'informer et se prémunir au maximum des risques via les consommations.
Et bonjour tout le monde, moi c'est Yann, du coup je suis éducateur spécialisé au Carud Intermed qui dépend de l'association régionale Clément Cizor. Au même titre que Maël, bien qu'on travaille de manière un peu différente, le but est d'accueillir sans jugement aucun les usagers de drogue au sens pluriel, on les prend dans leur entièreté, que ce soit cannabis, alcool, opioïdes, stimulants, cocaïne, etc. On viendra tout à l'heure sur la classification des produits pour les accompagner au mieux. Le propre d'un Carud et de la réduction des risques, hein, de manière générale, c'est de se dire qu'on est présent là où il y a de l'usage. Qu'on soit présent ou pas, l'usage aura lieu. Donc l'idée, c'est de pouvoir être là, distribuer du matériel, notamment pour limiter tous les risques infectieux, VIH, hépatite C et autres.
Pour préciser aussi, c'est qu'on n'est pas des centres de soins. On n'est pas là pour dire aux personnes qu'il faut arrêter de consommer. Si les personnes souhaitent arrêter, on pourra orienter, mais on n'est pas là pour dire aux personnes d'arrêter.
C'est ça, on peut tout à fait les accompagner dans leur consommation, dans le but de réduire leur consommation s'ils le souhaitent. On n'est pas là pour juger le bien, le mal de la consommation, mais pour rendre de la dignité à la personne et l'accompagner dans sa globalité. ACT UP le dit très bien, le savoir c'est le pouvoir. On est là pour renforcer l'empouvoirement des personnes en leur apportant du savoir pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes et de leurs collègues, copains, copines, familles et autres.
Le problème avec l'objectif d'un monde sans drogue, selon moi, est très complexe. La science classe presque tout comme une drogue, ce qui rend cet objectif extrêmement large. C'est irréaliste, car depuis des siècles, les drogues existent, et sous une forme ou une autre, elles sont consommées chaque jour par des personnes qui en ont besoin. Les drogues sont aussi consommées par des personnes qui en ont envie, qui en ont besoin, qui en veulent, chaque jour. Les drogues ne peuvent pas disparaître tout simplement parce qu'il y en aura toujours besoin.
Oui, il faut rappeler, la campagne Support Don't Punish s'oppose aux politiques prohibitionnistes et à la criminalisation des personnes qui consomment des substances. La campagne est portée par une alliance mondiale de militants militantes, de personnes concernées, d'associations locales et de collectifs communautaires, avec un point culminant chaque 26 juin, en réponse à la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue, utilisée historiquement pour justifier des politiques répressives. À cette date, Support Don't Punish retourne le stigmate. Rassemblement, actions de rue, prise de parole, performance, happening, forum populaire, pour affirmer qu'il faut soutenir les personnes, pas les punir.
On a eu la première édition au niveau mondial qui a été mise en place en 2013. C'est un événement qui est mondial. Le but, c'est de revenir sur l'échec de la guerre à la drogue au niveau mondial, de plébisciter une autre manière d'accompagner les personnes usagères de drogues et produits, sachant que malheureusement, une peine de prison ne guérit pas d'une addiction, alors qu'un accompagnement peut permettre potentiellement de traiter l'addiction.
Les lois et les réglementations actuelles contre le trafic de drogue empiètent sur les droits humains des usagers des drogues, des jeunes, des cultivateurs et des petits vendeurs, ainsi que des communautés autochtones et de la société dans son ensemble. Ces violations des droits humains se traduisent par une incarcération massive et des abus d'autorité de la part de la police et des forces armées. En outre, la violence généralisée produite par les combats ouverts contre les cartels de la drogue et leur rivalité entraîne un grand nombre de disparitions forcées, de déplacements internes forcés, de morts, de traite de personnes et d'extorsion. De plus, des crimes terribles tels que les féminicides, les enlèvements, les actes de corruption, ainsi que d'autres violations des droits humains restent invisibles sous le voile du discours de la guerre contre la drogue. C'est pourquoi nous exigeons que les forces armées retournent dans leurs casernes, car le trafic de drogue a conduit à la militarisation de la sécurité publique.
Vous pensez qu'il y a un tabou, avant de détailler un petit peu ce que c'est la drogue, il y a une campagne internationale. Est-ce que ça vient heurter des résistances liées à des tabous dans la société ?
Oui, bien sûr, on a énormément de tabous à ce niveau-là, ne serait-ce que le cadre légal. Le fait qu'on parle de produits qui sont stupéfiants fait qu'il n'est pas évident de pousser la porte d'une structure comme la nôtre pour certaines personnes. Il faut être en capacité de prendre du recul, d'estimer ses propres besoins, ce qui n'est pas nécessairement évident. Donc le cadre déjà légal pose une problématique d'accès aux soins.
Parce que le cadre légal, il définit aussi, il va licite et illicite. Donc déjà, il crée des identités, tout un imaginaire.
Exactement.
C'est peut-être le moment de le définir. Qu'est-ce qu'on entend véritablement en France quand on parle de drogue ? C'est quoi une drogue, en fait ?
Mais du coup, on va avoir forcément des drogues qui sont dites légales ou illégales. On va avoir donc notamment l'alcool et la nicotine, qui sont des drogues légales, mais qui ne sont pas pour autant dénuées... d'effets indésirables et d'impact sur la santé publique.
C'est pour ça qu'elles sont considérées comme une drogue. Quoi, on considère l'alcool comme une drogue, par exemple ?
Alors, en fait, on va considérer, je pense, une drogue, une substance comme drogue, quand elle va pouvoir finalement avoir un effet psychoactif et également pouvoir éventuellement être accompagnée d'accoutumance. Mais finalement, je pense que c'est surtout son effet psychoactif qui va définir une substance comme drogue. Donc, en France, on va avoir... Donc comme on le disait, l'alcool et le tabac, on va avoir aussi donc la cocaïne, l'héroïne, la MDMA, tout ce qui est dérivé amphétaminique et stimulant. On va avoir aussi depuis quelques années des substances qu'on appelle les catinones, qui sont des stimulants dérivés du cat, une plante du Moyen-Orient, à des propriétés stimulantes et qui ont émergé au début des années 2010. Notamment au Royaume-Uni, puis en France et ailleurs. On va aussi avoir, bien sûr, le cannabis, mais aussi des dérivés cannabinoïdes qui peuvent aujourd'hui nous poser questions, notamment dans notre travail d'analyste avec Maël et au niveau de l'analyse de drogue à visée de réduction des risques, mais aussi à visée de veille sanitaire. Ces dérivés cannabinoïdes sont des cannabinoïdes qui vont être beaucoup plus puissants finalement que le THC et vont pouvoir induire finalement des décompensations psychiques, mais aussi des risques de sédation trop marqués avec une potentialité, un potentiel coma, des effets assez graves qui peuvent survenir. Surtout quand on est dans des contextes où les usagers ne savent pas qu'ils vont consommer ces cannabinoïdes de synthèse. Et du coup, nous, on essaye d'être assez vigilants sur ces types de substances parce qu'elles sont de plus en plus disponibles et pour un public assez jeune qui n'a pas toujours l'information de ce qu'il consomme. À côté de ça, on va avoir aussi tout ce qui va être opioïdes de synthèse, comme on a pu voir finalement en outre-Atlantique, en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, avec des dérivés d'opioïdes, donc dérivés fentanyl et autres, qui vont être ultra puissants et qui vont pouvoir engendrer des effets indésirables avec des effets graves comme des comas et autres. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi entre guillemets pouvoir anticiper tout ça pour pouvoir justement, comme on le disait, le savoir c'est le pouvoir. En fait, l'idée, c'est en tout cas moi en tant que pharmacien, l'idée c'est de me dire qu'on est censé être des gardiens de poison grâce au savoir qu'on a reçu, et l'idée c'est de pouvoir le diffuser. En fait, qu'une drogue soit légale ou illégale, il est de notre devoir de pouvoir aider une personne qui en a besoin et pouvoir lui donner des informations utiles pour pouvoir réduire les risques qu'elle prend ou qu'elle fait prendre aux autres.
On est ici aujourd'hui pour appeler à un changement radical dans la politique drogue en Belgique. C'est vraiment important de se mobiliser encore et toujours pour appeler une politique qui soit aux antipodes de ce qui existe actuellement en Belgique, à savoir une politique répressive.
Il faut absolument décriminaliser l'usage de drogue à des fins personnelles. S'il y a des soucis par rapport à l'usage de drogue, on doit être en contact avec la santé et pas avec la police ou la justice. C'est évidemment une entrave dans un parcours de soins quand il y a un usage problématique. Donc je pense qu'il faut décriminaliser comme le plaide les instances de l'ONU et comme le fait le Portugal depuis plus de 20 ans maintenant.
Pour arrêter de stigmatiser déjà, pour répondre à la problématique des drogues comme une question de santé publique et pas une question de criminalisation.
Alors c'est quoi la différence entre drogue et stupéfiant ? C'est tout simple, le stupéfiant en fait c'est le terme juridique. Un stupéfiant c'est une substance et préparation inscrite sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et classée comme illégale par les textes de loi du Code de la Santé, article R5132-86. Cette classification n'est pas fondée uniquement sur la dangerosité de la substance, mais aussi sur des enjeux politiques, économiques et sociaux. Support Don't Punish milite pour des politiques en matière de drogue fondées sur les droits humains, la santé publique et la réduction des risques, en opposition aux logiques de criminalisation, de stigmatisation et de répression. Les nouvelles substances psychoactives, c'est un peu la nouvelle vague des drogues. On en parlait de savoir et de pouvoir. Vous deviez aussi être dans une recherche, un peu comme la lutte contre le dopage. C'est-à-dire, il faut que vous restiez aussi en éveil avec l'évolution, l'apparition de nouveaux types de drogues.
Tout à fait, c'est un peu le versant de la veille sanitaire qui est portée par l'OFDT en France, le réseau Synthèse, mais aussi par nos laboratoires de réduction des risques qui travaillent en bonne intelligence avec ce réseau de veille sanitaire. Et l'idée, c'est pas tellement de détecter les substances pour pouvoir, entre guillemets, avoir de la répression derrière. Non, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt détecter des substances pour pouvoir s'intéresser à ces substances, pour se poser des questions de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider si ça pose des problèmes pour les usagers. Et du coup, orienter cette connaissance pour qu'elle puisse servir les usagers et réduire les risques plutôt que de les opprimer. Après, ce réseau de veille sanitaire, effectivement, comme tu le disais, il faut rester alerte parce qu'on a en fait de tous les jours des nouvelles substances. Et on a aussi des usagers qui se disent psychonautes. Ils aiment explorer finalement les effets des substances. On va avoir plein de substances psychédéliques aussi nouvelles sur lesquelles on n'a pas de recul, en tout cas scientifique. Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de, à travers cet outil d'analyse de drogue, c'est pas seulement analyser un produit, ça s'organise avec des entretiens de réduction des risques. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir apprendre des usagers. Voilà, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a des sachants et des gens qui doivent apprendre. Mais...
D'autant que la connaissance passe par l'expérimentation, je dirais en laboratoire chimique, mais ça passe également par la consommation. Prendre des drogues, obligatoirement, ça passe par son usage.
Bien sûr, et c'est pour ça que discuter avec les usagers, c'est toujours intéressant. Enfin, moi, je fais le parallèle peut-être parce que je travaille aussi en pharmacie de film, mais écouter son patient, c'est quelque chose qu'on nous apprend dès le début. Et je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire et que c'est comme ça qu'on arrive à construire au mieux.
Alors comme tu l'as dit, je ne sais pas si on peut catégoriser, tu as cité l'héroïne, la cocaïne, le crack, je ne sais pas, méthamphétamine, LSD, MDMA, kétamine, GBH, PCP, tout ça, est-ce que ça peut faire partie d'une grande famille par exemple?
Je ne pense pas, parce qu'après il y a plusieurs classifications, on va avoir la classification à la fois pharmacologique, donc sur les effets, la classification on va dire... choisie par les sociétés actuelles, il y a la classification qui va être plus sur les effets, sur la famille de molécules, donc... Je pense qu'il n'y a pas une seule classification, il peut y en avoir plusieurs, tout dépend de ce qui nous intéresse quand on cherche à classifier ces substances.
J'aimerais bien qu'on reste aussi un peu sur les effets, puisque là on parle peut-être de produits dont on entend parler, qu'on ne connaît pas. L'effet fait partie évidemment de l'usage, quoi, de l'apprentissage de la drogue. Est-ce que vous pouvez citer quelques drogues et parler des effets?
Oui, on peut parler de la cocaïne qui va avoir un effet stimulant. On va pas avoir une psychodyslepsie, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une modification du champ de perception. On va plutôt être dynamisé, avoir, c'est souvent ce qui est recherché, cet effet stimulant pour avoir une meilleure concentration, une meilleure endurance. Alors bien sûr, comme toute substance, il y a des effets qui vont être recherchés et des effets indésirables. Donc c'est ce qui aussi nous anime, c'est de pouvoir mettre en lumière les deux.
Mais l'un va pas sans l'autre, en fait.
Exactement, voilà, c'est tout l'idée de support don't punish, c'est pas de finalement de supporter l'usage de drogue, c'est-à-dire d'encourager les gens à consommer, mais c'est plutôt de se dire que cet usage existe, qu'on soit là ou non, et du coup, le mieux c'est de pouvoir accompagner ces gens, les sensibiliser, et toutes les études à l'heure actuelle montrent que c'est une politique qui... de réduction des risques qui a plus d'effets positifs pour les gens et la société qu'une politique qui peut être de répression.
C'est ça, sociétalement, depuis que l'homme est l'homme et de la base de toutes les civilisations, il y a toujours eu des consommations de drogues et produits qui s'est basée sur trois grands principes. On avait le premier qui était autour du chamanisme, avec les expérimentations autour de psychédéliques, etc. On a bien sûr le soin et l'accès aux soins, qui est une des bases, qui fait qu'on a commencé à consommer des drogues en France. Je ne vais pas revenir sur l'historique de la route de l'opium, du potentiel de la France dans cette question-là, et de la France qui a très largement permis de développer l'accès aux opioïdes au niveau mondial il y a quelques années maintenant. Et on a l'aspect sociétal. L'alcool, par exemple, on peut dire la même chose pour d'autres produits, pour la cocaïne, pour le cannabis, etc., a un effet social, vecteur de partage, de désinhibition et de faciliter la rencontre avec l'autre.
Le problème des drogues en Thaïlande, du moins tel que je le vois, est devenu une sorte d'outil de relations publiques pour les politiciens. Ils s'en servent pour lancer des campagnes, gagner des voix et influencer l'opinion publique. Ils créent des politiques et des initiatives de contrôle des drogues, puis d'autres politiciens s'y associent. Tout le monde se laisse entraîner et le public n'a plus qu'à accepter. Mais il y a une chose que les politiciens ne semblent jamais reconnaître. Notre système actuel de contrôle des drogues est un échec. Depuis 70 ans, ici, en Thaïlande, nos lois sur les drogues se concentrent uniquement sur la réduction de la demande et de l'offre. Mais le problème ne disparaît pas. En réalité, il s'aggrave. Le gouvernement doit repenser sa stratégie et trouver une solution plus réaliste. Il devrait reconnaître que même les Thaïlandais qui consomment des drogues sont encore des citoyens, non ?
Et qu'il y a des tendances aussi. Hein. À une époque, la cocaïne était réservée, par exemple, à une élite. C'était cher, etc. Et aujourd'hui, on voit que ça inonde un peu vraiment tout le territoire, toutes les strates aussi, et toutes les classes sociales. Avec la baisse du prix, l'inondation, enfin vraiment, on peut en trouver partout. En une demi-heure, on en a livré chez soi. Et la personne précaire à la rue qui va ajouter sa cocaïne, le banquier qui va prendre sa trace avant d'aller travailler, etc.
C'est des effets parce que je trouve que c'est un marqueur de modèle de société. Juste, on a abordé rapidement le dépassement de soi, par exemple. Ça veut dire aussi quelque chose de notre rapport à la société.
Tout à fait, effectivement. Enfin, ça rejoint un peu ce que nous, on essaye de faire sur nos entretiens pré- et post-analyse. Quand on échange avec un usager ou une collègue, c'est aussi de se renseigner sur comment il a ses perceptions, parce que tout le monde va avoir une perception de quelque chose, ses croyances, mais aussi un usage qui peut être différent. On va avoir des gens qui vont avoir un usage dit thérapeutique parce qu'ils n'arrivent pas à régler un problème de santé ou n'arrivent pas à s'adresser dans les institutions ou structures. Et du coup, vont se débrouiller eux-mêmes avec une substance pour essayer d'apaiser leurs maux. Il va y avoir aussi un usage, comme le disait Yann, qui peut être culturel, festif, pour justement essayer de passer du bon temps, essayer de couper avec la réalité et profiter. On va avoir des usages aussi dits sportifs pour booster les capacités chez des sportifs. On peut le voir justement avec toutes les choses antidopage et tout ça, mais voilà. Après, il y a aussi un usage qui peut être visé de performance, comme tu disais, par rapport au travail ou par rapport à pouvoir finalement coordonner plein de choses en même temps, c'est-à-dire être efficient au travail, à la maison, dans ses passions, ses projets. Et on va avoir aussi l'usage chemsex pour développer le plaisir et les sensations lors de relations sexuelles.
On se rend bien compte que c'est un sujet complexe et la réponse officielle est plutôt ultra simpliste puisque ce n'est que la répression. On va envisager, nous, d'autres sources de réflexion pour amener un petit peu de complexité puisqu'on l'a vu, là, on a même abordé le début de l'humanité.
You know, this whole demand and supply conundrum.
Il y aura toujours un besoin de drogue, que ce soit pour soulager la douleur ou pour se défoncer, cela n'a aucune importance. Les gens ont besoin de médicaments à base d'opiacés, donc il faut bien cultiver l'opium pour les produire. À moins que le monde ne trouve un substitut adéquat aux médicaments à base d'opiacés. Je pense que les drogues existeront toujours et qu'un pays où une région aspire à un objectif de société sans drogue, ou même à une zone sans drogue, c'est ridicule, ce n'est que de la politique.
I think it's ridiculous and it's just, you know, it's just politics.
Ouais, sur le GHB.
C'est vrai qu'on considère ça comme une drogue du viol, faut rappeler pour moi que la première drogue du viol, c'est l'alcool. En vérité, qu'on a peu de cas recensés où du GHB a réellement été retrouvé. Voilà, le GHB, c'est un produit détourné qui peut être utilisé dans un but de sociabilisation.
C'est vrai que c'est une substance qui va créer de la relaxation, du lâcher-prise, en fait, une désinhibition totale avec un effet de sédation aussi, tout dépend de la dose, bien sûr. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une substance qui va surtout produire une amnésie des dernières heures, en fait. Okay. Et malheureusement, c'est aussi une substance qui va être excrétée du corps très rapidement. Je dis malheureusement parce que finalement, il va être très difficile pour quelqu'un qui a été victime de ce genre de choses de pouvoir prouver par des analyses biologiques qu'il a été victime justement de ces tentatives.
C'est ça, il faut réagir très très vite. Je crois qu'on a 48 heures, il me semble, quelque chose comme ça, voire un peu moins, pour arriver à détecter le produit dans l'organisme après une administration. Donc voilà, la chose à dire là-dessus, c'est que s'il y a des personnes qui sentent mal en soirée, etc., c'est qu'il faut foncer aux urgences très rapidement avec un dépôt de plainte pour avoir la possibilité d'avoir cette analyse.
Et sachant que le GHB aussi est un produit qu'il faut doser aussi très très bien, parce que la dose létale est infime, la dose pour être juste bien aussi est très infime, et que ça peut amener ce qu'on appelle un géol aussi, donc une perte de conscience, et c'est dans ces moments-là après. Donc c'est par le géol qu'on va rechercher après à commettre une agression, etc. C'est et puis ça. Le mélange avec l'alcool aussi, parce qu'il y a l'interaction des produits aussi. Mélanger des dépresseurs.
Voilà. Et le mélange avec l'alcool, le GHB, c'est précisément le truc qui favorise vachement les trous noirs, amnésie, etc. et qui met les gens pas bien.
En fait, on le verra. Je trouve aussi ce qui est important, et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas via tout ce qu'on racontait par rapport à l'analyse et même l'émission des collègues sur le CARUD, c'est de pouvoir finalement essayer de renseigner les gens sur les mélanges, et que ce soit légal, illégal, finalement, nous, ça nous regarde pas, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour essayer de les aider. Et effectivement, tout ce qui va être GHB ou qui va avoir un effet dépresseur du système nerveux central, donc comme l'alcool, les choses comme ça, tout ça, en fait, mélangé, ça peut exacerber des risques, et les personnes n'ont pas toujours ça en tête, et l'idée, c'est de pouvoir aussi, tu en parlais au tout début, il y a une espèce de tabou, parce que comme le disait Yann, peut-être on a plus de difficultés à venir parler de quelque chose qui est vu comme illégal. Et donc l'idée pour nous, c'est pas de dire à tout le monde qu'il faut le faire, mais en tout cas si tu le fais et que tu as besoin d'en parler, on peut être une ressource pour pouvoir après ou pas t'orienter en fonction de tes choix ou non. Et éviter que tu te fasses mal juste parce que tu ne sais pas ou que t'as pas notion de mauvais mélange par exemple.
Et il ne faut pas avoir peur de faire des recherches sur Internet. Il y a énormément de documentation qui existe, des tableaux d'interaction aussi entre les produits qui sont très très intéressants à regarder et qui permettent de savoir un peu quels mélanges sont les moins pires ou quoi. On n'a pas défini ça aussi, mais il y a quand même une classification assez générale des produits qui sont les dépresseurs, les stimulants et les psychédéliques aussi. Très important parce que mélanger deux dépresseurs va potentialiser une dépression respiratoire, mélanger des stimulants peut amener à des arrêts cardiaques, etc. Puis et les psychédéliques, après il faut les prendre, faut se connaître aussi un petit peu, faut découvrir.
D'où l'importance de véritablement connaître le produit, puisque la chimie humaine, le cerveau réagit. Les politiques de répression vont à l'encontre, j'ai l'impression, des cerveaux.
Banane pour planter un clou? Bien sûr que ça ne marche pas. Pas plus qu'une peine de prison pour soigner une addiction. Pour la santé et les droits de tous, mettons fin aux sanctions pénales pour simple consommation de drogue. Signez la pétition législative.
Je sais pas si c'est le moment de parler chiffres, mais on peut faire une petite parenthèse autour du cannabis quand même, parce que ça occupe quand même beaucoup, ça agite les médias, tout ça, les débats, légalisation, etc., etc. C'est quoi la réalité du cannabis en France? Où est-ce qu'on le situe? Est-ce que c'est illégal aussi?
J'ai une petite précision à apporter là-dessus, c'est que le cannabis a toujours été considéré comme une drogue douce, comme on a toujours fait une distinction drogue douce, drogue dur. Pour moi, il n'y a aucune distinction à faire parce que le cannabis amène beaucoup de décompensations, notamment chez les jeunes, vers des schizophrénies, etc., ou des troubles anxieux. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça peut être considéré comme une drogue dure aussi.
C'est ça, je suis assez d'accord. De même, on ne fait pas la différence entre drogue dure, drogue douce. Ça, c'est mon expérience personnelle et professionnelle qui va me dire ça. Le risque, il est surtout lié à l'usage qu'on en fait. Il peut y avoir des catégories d'usagers qui vont avoir des consommations dites festives, qui vont pas amener de problématiques d'ordre social, familial, alimentaire, etc. Et d'autres usages qui vont faciliter le fait de tomber dans des addictions avec des problématiques liées.
Alors c'est quoi une addiction?
Il y a une citation d'un des pères de l'addictologie en France qui disait que l'addiction c'est avant tout la rencontre entre un produit, un individu et un contexte. Donc finalement, on peut pas, comme tu le disais, c'est quelque chose qui est complexe, donc on peut pas le résumer à une seule facette. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir essayer d'englober toutes les facettes à leur juste valeur et au juste moment, pour la juste personne, avec le juste discours. Je dirais aussi, tout à l'heure, Maëlle parlait des psychédéliques. Effectivement, il y a, donc tu disais connaître bien la substance, mais aussi se connaître soi-même. Et aussi il y a toute la notion, la définition de ce qu'on appelle le set and setting, finalement le cadre, le mindset dans lequel on va se mettre, la posture dans laquelle on va se mettre avant de consommer.
Le mood, tu veux dire un peu.
Exactement, tout à fait, mais aussi le contexte, donc tout ce qu'on va planifier pour que ça se passe au mieux, par exemple, avoir, par exemple, s'il y a une consommation consommation de psychédéliques, ce qui va être recommandé, c'est d'avoir un endroit calme, posé, sans de risque par rapport, je sais pas, on va pas se mettre sur un rooftop au 10e étage, sans barrière, avec de l'agitation permanente. Non, on va plutôt rechercher quelque chose d'un cadre posé, avec de la musique qui peut aider, voilà. Et tout ça, il y a beaucoup d'études sur le sujet et qui montrent que ça a une influence finalement sur le trip vécu par les usagers. Voilà, pour rappeler finalement que c'est complexe et qu'il y a beaucoup d'aspects à regarder.
Pour repréciser, donner quelques chiffres sur la consommation de cannabis en France, on est à 18 millions d'expérimentateurs. On est sur une consommation qui est en progression constante, combien même que l'on possède en France une des législations les plus punitives d'Europe. Donc peut-être qu'il faut y voir, c'est pas forcément à moi de le dire, un lien de cause à effet à cette question-là. On considère que 39% des adolescents ont déjà fumé du cannabis à 17 ans. Ça, c'est des sources qui viennent de la Mildeca. On est le premier consommateur de cannabis en Europe, avec 44,8% des 15-64 ans qui ont déjà consommé. Et on estime en France, et là on est quand même sur des gros chiffres, que le chiffre d'affaires annuel du cannabis en France, donc lié au marché noir, est de 4,8 milliards d'euros pour à peu près 200 000 emplois qui sont liés au trafic en France. Et effectivement, on appelle là encore à une dépénalisation, voire une légalisation, pour permettre d'atténuer ce chiffre-là, permettre de rentrer en fait et de couper un peu le trafic par le biais de quelque chose légal pour couper un petit peu tout ce marché noir.
Qui permettrait aussi, parce que Jérémy en parlait tout à l'heure, mais on a l'apparition de cannabinoïdes de synthèse, etc., qu'on retrouve sur le marché noir aussi, et au moins une dépénalisation ou une légalisation pourrait permettre un meilleur contrôle de ces produits-là, d'amener des produits plus sains, entre guillemets, qu'on connaît en tout cas, qui sont contrôlés et qui éviteraient parfois des cas qu'on n'aimerait pas avoir.
Wengi watalia na kusaga meno pia. The righteous of the bar, mbinguni kwa furaha. All thanks kwa kijami, amenifanya shujaa. Ananipenda na nifaa. Kuna vile yo ni nice, kuna vile yo ni bamba. Kubonga na ye ni free with daddy 20 bamba. Shetani cheza chini, support don't punish. We, keke usinikashifu junko drewa ilai. Atijuwaga na vutaga zangu mangwai. Nute maga mpaka man audhu bilai. Time flani support don't punish. Ungeza beef paka joni ungeza tu na garnish. Rrr, pulo ponde sina kuna scrammage. Hey, expect ponde sinjo taku damage. Support don't punish. 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 Che. Mbuki ujanja, mbuki urada, mbuki ni ganji kusaka. Mbuki matata, mbuka na chapa, dani ni chichi na chacha. Cheza na kada, hipa madanda, choche cloud ni saba. Wezi ni pata, mimi mechapa, mindu uruga kia ina. Mizi utoka safina, uni nikna mbuki man. Energy ya rebina, kani mzinga mimina. Nani washa ikima, wezi nkompea mimina. Che, support. Hafiki, hapo fiki. Mnafiki ukini wrong ni tiki. Anapenda niki. Liki liki finger sticky sticky. Rider piki piki. Mindo mwenye kiti. No more sitting juna run his city. Na washa admit it. Sasa niko fiti. Maziwa ni titi. Pussy kitty kitty. Fast meeting. Miti miti miti. Support 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 support.
Don't punish, support, don't punish, support, don't punish.